Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. À 10h05, vous retrouverez la chronique de Tanguy Pastureau. Le temps de cuisiner maison, ce sera vers 10h20 avec notre chef Grégory Cohen. Au menu ce matin, tempura de légumes et de crevettes et des perles du Japon aux fraises. Vers 9h46, c'est Olivier Pourriol qui prendra le temps de réfléchir à notre époque. Nous recevrons également l'écrivain Pascal Bruckner qui évoquera la société du maître et demi qu'il fustige ardemment. Au menu de la seconde partie, le plaisir de lire Simenon, le créateur du commissaire Maigret, mais pas seulement. Gide disait de lui qu'il était un pur romancier, géant de la littérature du XXe siècle. Simenon a su révéler l'homme dépouillé de tous ses oripeaux sociaux, cet homme nu raconté dans des romans entre gris clair et gris foncé, qui bien souvent raconte un passage de la ligne, les fantômes du Chapelier, la fuite de Monsieur Monde, Betty la Chambre Bleue, l'escalier de fer ou encore la neige était sale. Autant de romans à l'apparente simplicité qui révèlent la complexité de la condition humaine avec une exigence, comprendre et ne pas juger. Et vous, dites-nous pourquoi vous aimez lire Simenon au 01 45 24 7000, sans oublier le site et l'appli France Inter. Mais avant cela, on s'intéresse au plaisir de pédaler. Pourquoi faire du vélo rend heureux, exalte le corps et les neurones. Le vélo réellement mis au point en 1891, moins cher qu'une voiture et plus rapide que la marche, c'était pour Jean d'Ormesson, l'héritier du cheval. Faire du vélo n'est pas toujours une partie de plaisir dans des villes qui manquent d'infrastructures, ce qui peut induire un sentiment d'insécurité face aux voitures, motos, camionnettes, poids lourds. Mais quel sentiment de liberté dans les villes qui célèbrent la petite reine, comme à Strasbourg, en forêt, sur les routes de campagne, à la montagne ou en bord de mer. Racontez-nous votre plaisir de faire du vélo au 01 45 24 7000 et sur la page Facebook de Grand Bien vous fasse, dites-nous également ce qui entrave votre plaisir de pédaler. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rébéi.
Monsieur Vittoré, alors vous continuez de faire de la bicyclette tous les jours?
Mais comme vous voyez, monsieur, je n'arrête pas. J'ai commencé à l'âge de 10 ans, j'en ai 85. Ça fait 75 ans que je pédale. Pendant toute ma vie, je n'ai jamais abandonné la bicyclette. Pendant que mes camarades allaient faire la partie au billard, moi j'allais dans mon lit et le matin à 5 heures, je pédalais sur les routes. Je remplissais mes poumons d'oxygène et j'étais heureux au travail pour le restant de ma journée.
Vittoré, cycliste heureux de 85 ans, 1961. Bonjour Frédéric Errand.
Bonjour.
Vous êtes économiste des transports et urbaniste, maître de conférence à l'université Lille 1. Vous avez récemment publié à la découverte Le retour de la bicyclette, une histoire des déplacements urbains en Europe de 1817 à 2050. Bonjour Olivier Razemont.
Bonjour.
Vous êtes écrivain journaliste, vous avez notamment publié Le pouvoir de la pédale, comment le vélo transforme nos sociétés cabossées aux éditions Rue de l'Échiquier. Bonjour Éric Fotorino.
Bonjour Ali.
Écrivain, directeur de l'hebdomadaire Le 1, des MOOC America et de Zadig, ancien coureur, cycliste et toujours cycliste. Hein,
toujours, toujours.
Bonjour Camille Thomé.
Bonjour.
Vous êtes directrice de Vélo et Territoire. Camille Thomé, expliquez-nous en quelques mots ce qu'est Vélo et Territoire.
Vélo et Territoire, c'est un réseau de collectivités territoriales qui sont mobilisées pour le développement du vélo et qui globalement voudraient mettre en œuvre tous les moyens possibles pour une France à vélo sous tous les ponts du vélo à horizon 2030.
Alors Frédéric Errand, le vélo tel que nous le connaissons, peu ou prou, date de 1891, c'est ça?
Oui, c'est vrai qu'il est à peu près au point à ce moment-là, c'est l'invention du pneumatique qui va le rendre bien plus pratique, bien plus confortable. Il y aura encore des évolutions sur le dérailleur, mais en gros, le vélo de 1891 est déjà à peu près celui que nous connaissons aujourd'hui. Et il va connaître d'ailleurs, dans les années fin du 19e siècle, un boom extraordinaire. Et c'est d'ailleurs aux États-Unis qu'il va connaître l'essor le plus foudroyant, puisque le pays le plus cycliste au monde en 1900, c'était ce pays, les États-Unis.
Et puis dans la première partie du XXe siècle, la pratique du vélo se répand dans toutes les couches de la société et presque partout en Europe. Hein.
Oui, oui, il va devenir très populaire. Les prix vont s'effondrer. En fait, un vélo dans les années 30 coûtait 10 fois moins cher qu'à la fin du XIXe siècle. Et les classes populaires vont s'en emparer massivement, et tout particulièrement en France, autant qu'ailleurs en Europe, nous avons été un pays très très utilisateur de vélos. Toutes les couches de la société l'utilisaient, c'est les ouvriers, les employés, les agriculteurs, pour aller au travail, mais aussi pour le loisir, pour toutes sortes d'usages, y compris des déplacements de charges avec des remorques, des triporteurs, etc.
Et quelle a été la grande période de l'engouement pour le vélo dans notre pays ?
Ben c'est ça, c'est les années de l'entre-deux-guerres. Et ensuite, la pratique va s'effondrer sous la concurrence du deux-roues motorisé. Nous avons laissé se développer le cyclomoteur, le Solex, la Mob, le Peugeot, pour librement, au prix d'ailleurs de dizaines de milliers de morts, parce que c'est très dangereux le deux-roues motorisé quand il n'est pas mal encadré. Et c'est cela qui va tuer le vélo en France. Ensuite, bien sûr, la motorisation, c'est-à-dire l'accès à la voiture, va achever le travail.
Olivier Razemont, quelle est la part du vélo dans les déplacements quotidiens aujourd'hui en France ?
Alors, il y a quelques mois, ça devait être 2 ou 3 % ça a sans doute augmenté depuis, mais on n'a pas encore de chiffres. Ça reste inférieur à la plupart des pays européens. Ça, c'est bien sûr inférieur aux Pays-Bas, au Danemark, comme on imagine, mais aussi à la Belgique, l'Allemagne et aussi à l'Italie, en fait, ou la Hongrie. Contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas seulement dans les pays du nord de l'Europe qu'on pédale le plus, mais en Italie du Nord, par exemple, il y a beaucoup de gens qui se déplacent à vélo tous les jours pour des courts déplacements, parfois, dans les villes, ou un peu plus longs, pour à la campagne, et bien sûr le cyclotourisme. Et ces fameux 2-3% en France, c'est très très variable, ça dépend des endroits, dans les villes. C'est plus, dans les villes comme Strasbourg, Grenoble ou Rennes, c'est 10-15%, ou Bordeaux, et puis dans des villes comme Paris, c'est plutôt 5-7%. C'était vraiment les chiffres il y a quelques mois, ou il y a un ou deux ans, donc ça a sans doute beaucoup beaucoup bougé depuis, hein, mais c'est les derniers chiffres qu'on a. On devrait en avoir des nouveaux bientôt. Et puis, il y a des endroits où la pratique du vélo continue à baisser, en fait, et je sais que Frédéric Errand connaît bien cela, notamment dans les zones périurbaines, dans les régions périurbaines, dans les régions à la campagne également, parce qu'on utilise moins le vélo, on se motorise encore davantage et les distances augmentent en raison notamment de l'étalement urbain, c'est-à-dire qu'en fait on a des équipements qui sont moins près des villes, qui sont plus éloignés, on construit des zones d'activité, des zones commerciales loin des villes, et donc ça facilite les déplacements longs, et donc ça, et on les n'aménage d'ailleurs pas beaucoup ces endroits pour le vélo, et donc ça facilite les déplacements en voiture.
Éric Fotorino, pourquoi le vélo est-il si important dans votre vie, vous qui avez été un ancien coureur cycliste ?
Amateur. Mais en fait, je pense que c'est des moments très, très personnels, c'est-à-dire que j'ai des souvenirs vraiment intenses, comme si c'était hier, de mes premières années, ou d'un sentiment que je ne savais pas exprimer, mais qui était simplement là, un sentiment de liberté. Du jour où on m'a enlevé les petits trous sur les côtés et que j'ai commencé à filer comme ça, je me souviens, c'était dans le parc bordelais à Bordeaux. J'ai eu l'impression que je m'affranchissais de tout, et donc cette sentiment presque d'ébriété de pouvoir, en appuyant sur des pédales, prendre de la vitesse, sentir l'air sur le visage et surtout échapper aux adultes. Donc je pense que, vous savez, dans le vélo, on dit toujours, quand on court à vélo, est-ce qu'il s'est échappé ? Il faut s'échapper. Je pense qu'on s'échappe toujours, on échappe toujours à quelque chose quand on est sur son vélo, aux soucis, aux tracas, à la vie immobile. Et puis le vélo, c'est comme une bande son permanente. Vous entendez plein de choses à mesure que vous avancez. Donc il y a ça. Et puis quand j'avais une quinzaine d'années, je ne vivais plus à Bordeaux mais à La Rochelle. Et il y avait un maire écolo avant l'heure qui s'appelait Michel Crépeau. Et je me souviens qu'il y a eu des petits vélos une année gratuits qu'on pouvait trouver n'importe où au détour d'une rue. Il y avait un petit vélo jaune de la ville. Et moi, j'allais au lycée avec ce petit vélo, donc j'en prenais un pas loin de chez moi, je le posais contre le mur de l'école, et le soir, j'en retrouvais un autre. Vous voyez, ça n'a pas duré très longtemps, parce que ces vélos ont fini par être accaparés, détériorés, etc. Mais j'ai vraiment toujours associé le vélo, la pratique du vélo, à la liberté. Et je me rappelle de cette phrase de l'écrivain Malaparte, qui disait que le vélo était un squelette extérieur. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression que j'avais métabolisé mon vélo qui faisait d'une certaine manière partie de moi.
L'effort est constitutif du plaisir. Il faut être plus fort que la sensation physique en un sens devenir stoïcien, Eric Fottorino.
Oui, un peu, c'est vrai que vélosophie, hein, c'est un terme qui est utilisé quelquefois, notamment le petit traité de vélosophie qu'a écrit Tronché. Donc c'est vrai que je pense que c'est que le plaisir doit l'emporter sur la douleur. C'est vrai que quand on fait vraiment du vélo de façon sportive, je trouve que c'est un sport assez doux. Simplement avec les kilomètres vous laissez pas mal de force, les muscles chauffent, mais malgré tout vous avez des douleurs qui apparaissent à la nuque, dans les jambes bien sûr, mais dans les reins, dans les bras. On croit que c'est seulement les jambes le vélo, non, le vélo c'est le corps entier qui est engagé. Et puis aussi c'est le mental, quand la route commence à s'élever, quand vous montez des longues côtes, a fortiori quand vous montez des cols, quand vous avez des cols de 20, 21 km, 22 km à 8, 9, 10%, vous comptez les bornes et puis vous vous installez dans une autre relation à l'effort. Et cet effort vous transcende d'une certaine manière, vous adaptez votre coup de pédale à votre cœur, à votre souffle. Il y a une sorte de... Et pour moi qui ai longtemps écrit à la main, j'avais vraiment la sensation que lorsque j'écrivais le stylo, le papier, il y avait le même rythme que j'adoptais d'une certaine manière quand je franchissais un obstacle important.
Camille Thomé.
Oui, ce que vous décrivez, c'est très intéressant, Monsieur Fottorino, et je me permets de citer un professeur vélo d'Amsterdam qui s'appelle Marco T. Brummelstroot et qui décrit bien cette analogie éventuellement musicale de l'effort. Il appelle ça le flow du cycliste. Il fait l'analogie avec celui du jazzman, parce que finalement cet état de flow, c'est la combinaison d'une mobilisation optimum des compétences. Alors qu'on soit sportif dans le cadre de votre pratique sur un col de 22 km, qui est quand même pas celle de monsieur, madame, tout le monde, ou que ce soit au quotidien quand on est à vélo, je me classe plus dans cette catégorie-là. Et voilà, c'est cette mobilisation optimum des compétences et un engagement sensoriel complet. Et c'est là que lorsqu'on mobilise des compétences, qu'on est à l'affût en permanence et en interaction avec son environnement, ce que décrit ce docteur vélo d'Amsterdam, qui est docteur en urbanisme, c'est que le vélo, quand on le pratique, que ce soit pour des loisirs, du tourisme, du sport ou au quotidien, ça fait appel à tellement de sens que ça nous augmente, voilà, en tant qu'humain. Et le plaisir ultime à vélo, il est atteint quand on est dans cette situation de flow, à l'instar du jazzman qui, dans l'improvisation, est en symbiose avec ses partenaires de musique, par le cas échéant.
Et vous ressentez évidemment ce flow, Camille Thomé, quand vous pédalez?
Alors ça dépend des fois, hein, je veux pas vous le cacher quand même. C'est vrai que beaucoup de Français et beaucoup de personnes, c'est mon cas, on vient au vélo parce que soit c'est pratique, soit c'est rapide, soit et puis c'était voilà, on a pas de sous, on est étudiant. Pour mon cas, c'était aussi parce que je suis une grosse flemmarde et que quand on est flemmarde, ben le vélo c'est bigrement plus efficace, ça va plus vite, c'est beaucoup plus simple que bien des choses, etc. Et puis pour mon cas aussi, je suis une femme, la femme du plateau là en l'occurrence, et quand on est une femme et quand on rentre tard le soir et qu'on se déplace à vélo, on se fait beaucoup moins embêter quand on est à pied ou que quand on est dans les transports en commun. Et du coup c'est un grand véhicule, enfin un grand outil d'émancipation et de liberté. On peut rentrer à n'importe quelle heure, on peut aller où bon nous semble et on est quasiment invisible. Voilà, on passe vite, on se fait pas remarquer. Donc ça, c'était ce qui avait préexisté à mon utilisation du vélo. Et puis après, ce qui transforme l'utilisation du vélo au quotidien, c'est le plaisir. Voilà. S'il y en a pas, on va pas insister dans cette pratique. En revanche, si le plaisir est au rendez-vous et si on rencontre ce flow-là, on transforme une pratique du vélo éventuellement occasionnelle en pratique du vélo au quotidien. C'est vraiment le plaisir. C'est pour ça que le plaisir, il est important à vélo. C'est ce qui fait que on arrive à transformer ça en part modale dans certaines villes. C'est que dans certaines villes aujourd'hui, ça devient un plaisir, et dans certains espaces, ça n'est pas encore le plaisir. Donc on n'est pas en transformation de la pratique. On est plutôt en diminution dans certains espaces.
Voilà. Olivier Razemont, racontez-nous votre plaisir de faire du vélo.
Alors justement, j'allais vous en parler parce que moi, c'est pas du tout l'effort. En fait, moi, j'ai pas du tout l'impression de faire un effort quand je suis à vélo. Au contraire, c'est très simple. J'ai, comme l'a dit Camille Thomé à l'instant, la grande liberté d'aller absolument où je veux, de changer de direction éventuellement. Alors, ça dépend. Quand c'est un trajet utilitaire, a priori, je sais où je vais passer. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que les gens qui font des trajets utilitaires, pour le plaisir, changent de temps en temps de trajet. C'est-à-dire qu'ils vont au travail tous les jours, mais parce que ils veulent pas passer toujours par le même endroit. Et donc moi, c'est ça mon plaisir d'abord, c'est de voir des endroits nouveaux, c'est de voir faire un petit voyage. Et même depuis 2 mois et demi, alors surtout depuis 15 jours, je dois dire, je me déplace beaucoup à vélo, je fais beaucoup de balades simplement en banlieue parisienne, tout bêtement, et je découvre plein de choses, et je m'arrête quand je veux, je reviens en arrière le cas échéant, je passe à peu près inaperçu partout. Lorsqu'il y a un endroit où je me sens pas très à l'aise, parce que c'est pas agréable, parce que c'est très routier, ben je passe vite. Et puis lorsqu'au contraire je me trouve dans des rues pavillonnaires agréables ou le long d'un canal, et ben là je m'arrête un peu. Je peux m'arrêter quand je veux, j'ai un livre, je le sors, je lis, je prends des notes. Il se passe plein de choses quand on est à vélo. Et puis il y a ce plaisir aussi plus long du cyclotourisme qu'on peut pratiquer. Alors c'est très variable là aussi, hein, 3 heures, une journée, 3 jours. Et je me souviens d'une balade que j'avais faite à côté de Joinville, Joinville en Haute-Marne, le long de la Marne. Alors là, on m'avait prêté un vélo et j'étais parti pour la journée avec juste, je crois, un morceau de pain, du camembert et puis un peu d'eau et quelques cerises. Et c'était vraiment une très belle journée.
Éric Fotorino, je vous laisse filer. Merci d'avoir participé à l'émission. Et Frédéric Errand, vous nous direz dans quelques instants votre plaisir de pédaler. Et vous, dites-nous au 01 45 24 7000 votre plaisir à faire du vélo. Alexia Rivière, Julien Macarès, Denis Deras et Josépha Gourvennec m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Lauriane Toulmont avec l'aide d'Étienne Bertin, à la technique Charles Pélabon.
Véronique Sanson, comme je l'imagine.
Grand bien vous fasse.
sur France Inter.
9h30, on s'intéresse au plaisir de faire du vélo. Or, Frédéric Héran, je rappelle que vous êtes économiste des transports. Racontez-nous votre plaisir de pédaler.
En fait, dans ce qu'on vient déjà d'entendre, il s'agit de pratiques très diverses, autant de vélos de ville, vélos dans l'enfance, vélos de randonnée, ou bien course amateur. En réalité, il y a une multitude d'usages du vélo qui ne cesse d'ailleurs de se diversifier. J'en ai repéré pas moins d'une trentaine. Quand on se demande finalement, mais quel est le point commun entre toutes ces pratiques très diverses du vélo, eh bien, je dirais que c'est l'équilibre sur deux roues. Le côté complètement magique du fait que ce n'est qu'en bougeant, en mouvement, que l'on peut tenir en équilibre, alors que si on s'arrête et on se casse la figure. Voilà, c'est sans doute le point commun assez étonnant, assez incroyable, assez improbable, qui a stupéfié les contemporains du baron Dreis von Sauerbrunn, quand il a inventé la draisienne, et donc cet équilibre sur deux roues. C'est ça le point commun. Et quand je pense j'essaie de me souvenir de ce qui m'a plu dans mon enfance, quand j'ai commencé à faire du vélo, vers l'âge de 5 ans, c'est cela. C'est ce côté incroyable de pouvoir tenir en équilibre sur deux roues. Il n'y a qu'à regarder les enfants aujourd'hui, quand ils apprennent à faire du vélo, ils peuvent le faire d'ailleurs encore plus tôt grâce à la draisienne pour enfants, que je recommande vraiment à tous les parents qui veulent faire apprendre le vélo à leur enfant. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de petites roues, là, c'est terminé. On utilise un petit vélo et on pousse avec les pieds, simplement, pas de pédale. On pousse avec les pieds et on peut apprendre à tenir en équilibre dès l'âge de 2 ans. Il n'y a qu'à regarder les visages de ces enfants absolument épanouis, incroyablement heureux de pouvoir découvrir cet équilibre. Voilà. Puis alors l'autre grand plaisir que j'ai, qui je crois est commun à toutes les formes d'usage du vélo, c'est, on l'a déjà dit, c'est ce contact avec l'environnement par tous les sens, vraiment les 5 sens. La vue, bien sûr, avec comme le dit Didier Tronchet, vous savez, déjà cité dans son petit traité de philosophie, on vit la ville ou la campagne en cinémascope. On est dans une espèce de travelling permanent, dit-il. Les images qu'il utilise sont très justes. On est aussi dans un monde d'odeurs, alors qui peuvent être des odeurs de pot d'échappement, mais qui souvent aussi sont des odeurs printanières, là, en ce moment, et qui sont avivées par l'effort, justement. On est aussi en pleine écoute de l'environnement. Alors, ça peut être des bruits de moteur, des bruits de moto, des choses désagréables, mais ça peut être aussi des oiseaux, des personnes. On entend les conversations dans la rue, ce qu'on ne peut pas faire en voiture ou en transport public. Le toucher, on est en contact avec l'environnement, avec l'air, la température, le soleil qui brûle, ou la pluie qui mouille, ou le froid, etc. Et même le goût. Le goût est avivé par l'effort. Je vous assure que quand vous avez un petit peu pédalé, vous avez une fringale, et tout vous paraît excellent, quoi.
Et comme le dit Olivier Razemont, ne pas faire de vélo est dangereux pour la santé. Olivier Razemont, je rappelle que vous êtes journaliste indépendant et que vous avez publié Le pouvoir de la pédale. En Europe du Nord, le vélo est roi et c'est un plaisir de pédaler en toute sécurité. Pas forcément en France, dans la plupart des grandes villes.
Alors, ça dépend. C'est vraiment en train de changer, mais effectivement, on a construit, on a adapté en fait les villes en France et d'ailleurs partout, à la voiture, à l'usage de la voiture. Donc, on a élargi les chaussées, pensé la fluidité en termes de circulation motorisée, et donc ça devient compliqué à vélo parce qu'on doit, on va moins vite, on a un rythme qui est pas le même, on peut pas accélérer aussi vite, et donc on se sent en insécurité. C'est en train de changer heureusement parce que de plus en plus plus les villes, et ça date d'avant, hein, déjà l'épisode que nous avons vécu récemment, c'est déjà depuis quelques années, et notamment la campagne des élections municipales, c'était beaucoup déroulé dans beaucoup de villes, et pas seulement dans les grandes villes, aussi dans les villes moyennes sur cette question de vélo, et on aménage, alors ça veut dire des pistes cyclables, ça veut dire des carrefours aménagés, ça veut dire des feux qui sont synchronisés autrement, donc ça se fait petit à petit, ça se fait avec des... c'est compliqué, il y a des avancées, puis il y a des reculs, mais c'est sûr qu'on fait en sorte que ça devienne... En fait, c'est vrai qu'on fait en sorte que ça devienne plus agréable. C'est-à-dire que si ça devient agréable de faire un trajet de 3 km à vélo, même s'il pleut un peu, une petite pluie n'est pas une grosse pluie, on le sait très bien quand on est cycliste, en fait. On s'aperçoit qu'une petite pluie, elle est pas gênante du tout, elle peut même être un peu agréable, alors qu'une grosse pluie, ben, il faut s'arrêter, il faut s'abriter. Et quand on fait des trajets, quand on fait en sorte que le trajet de 3-4 km sera facile à faire à vélo, ben, les gens vont le faire, en fait, assez facilement. Et si par contre, on continue à avoir des univers, compliqué avec une rocade à traverser, avec des voitures stationnées sur le long, avec des portières qui s'ouvrent et des camions qui passent le long, comme ça existe encore dans beaucoup d'endroits, ben c'est anxiogène et là on n'arrivera pas à convaincre beaucoup de monde de s'y mettre.
Camille Thomé, je rappelle que vous êtes directrice de Vélo et Territoires. Il existe encore beaucoup trop de points noirs qui entravent le plaisir de rouler à vélo sur l'ensemble du territoire. Je pense aux discontinuités cyclables.
Oui, il y en a quand même un certain nombre actuellement et je veux dire que le plus facile a peut-être été fait. Lorsque c'est facile de remédier à une continuité, eh bien, on met en place un apaisement de trafic, on met une piste cyclable, une bande cyclable et la continuité rétablie. Lorsqu'il s'agit de franchir, un fleuve, une autoroute ou une voie ferrée, c'est quand même une autre paire de manches ou l'estuaire de la Seine, par exemple, sur le pont de Normandie. Là, on se retrousse quand même un peu les manches et gommer cette continuité, cette discontinuité, pardon, ça prend quand même quelques années. C'est pourquoi dans bien des cas, les mises en continuité vont pas se faire du jour au lendemain. Mais il y a quand même des mesures qui sont pour y remédier à court terme ou en tout cas à moyen terme et dès l'arrivée en exercice des futurs maires et assemblées communautaires, ça va être, je pense qu'on va on va l'observer, des politiques cyclables beaucoup beaucoup plus ambitieuses qu'on n'en a jamais vues. C'était dans les professions de foi, Olivier Razemont l'a rappelé tout à l'heure, de bon nombre de d'aspirants maires partout dans les territoires et on a la chance aujourd'hui en France d'avoir quand même un tissu de militants cyclistes sacrément musclé. Bon, ça n'a pas toujours été le cas et aujourd'hui ça l'est. Et du coup, on a des citoyens cyclistes qui n'ont de cesse que d'interpeller les pouvoirs publics. Et du coup, on arrive dans ce cercle vertueux où les élus ont la volonté de faire et la vraie volonté de faire. Ce n'est plus de l'habillage, c'est devenu une vraie politique publique. Et puis, on a des citoyens qui sont devenus exigeants. Mais de manière très constructive et pas juste revendicatrice, pas contente. Voilà. Pas que à la française, également de façon constructive. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et puis pour renouer avec cette histoire du plaisir à faire du vélo, là, on est dans une période de déconfinement progressif et puis on aura d'autres annonces tout à l'heure, mais ce qu'on a observé, et c'est symptomatique du plaisir qu'il y a à faire du vélo, la semaine du déconfinement, on a observé plus 151% de fréquentation cycliste par rapport à avant le confinement, sur la période du week-end. Et la période du week-end, on peut en déduire que c'était pas pour aller au travail, c'est plus 151%, mais que c'était pour se sentir libre, pour le plaisir et pour enfin retrouver sa liberté. Donc,
Et Mélanie, on vient de vous quitter, Camille Thomas, on va essayer de vous retrouver. Et Mélanie nous dit, lorsque je fais du vélo, je trouve immédiatement cette sensation de liberté de mon enfance. Je partais faire de longues balades avec ma voisine, qui était mon amie. Nos parents n'étaient pas inquiets, nous laissaient vadrouiller sur les chemins de la campagne normande tout l'après-midi. Frédéric Errand, à quoi pourrait ressembler une ville où l'on prend plaisir à prendre son vélo pour se déplacer? Une ville, une agglomération? Quelle est l'agglomération de vos rêves pour le vélo?
Eh bien, la tendance lourde, mondiale, très visible d'ores et déjà dans toutes les grandes villes occidentales, y compris dans des pays qu'on croit peu cyclistes, mais qu'ils commencent à le redevenir, comme les États-Unis, la tendance mondiale, c'est à l'apaisement du trafic automobile. Et c'est cela, c'est l'apaisement du trafic automobile qui rend la pratique du vélo beaucoup plus plaisante. Alors évidemment, si les aménagements cyclables permettent de prendre de la place à la voiture et donc d'apaiser les villes, c'est encore mieux. Mais en tout cas, c'est cet apaisement progressif du trafic auto qui est la tendance lourde. Et concrètement, ça veut dire des vitesses réduites, un volume de trafic réduit. Et les villes progressent très, très fortement dans ce domaine. Prenons l'exemple de Paris. C'est peu connu, mais à Paris, on a déjà divisé par deux le trafic automobile intramuros. Hein, entre 1992 et 2019, le trafic a été divisé, a été réduit de 53%. C'est très, très sensible. Et on peut continuer encore. Je pense qu'il y a encore une marge de progression importante. Paris est dans la moyenne hein, des grandes villes occidentales. Il n'y a rien de spécifique à Paris. Et donc on voit bien que c'est la modération du trafic, c'est comme ça qu'on dit, qui encourage la pratique du vélo, qui à Paris a explosé, puisque dans le même laps de temps, on a une pratique multipliée par 10 à Paris.
Olivier Razemont.
Oui. Ce qui est intéressant dans cette histoire de vélo, c'est que c'est un outil qui est adapté à beaucoup de monde, à presque tout le monde, et pas forcément pour tous les trajets, mais pour beaucoup de trajets. Et c'est très intéressant, c'est-à-dire on peut avoir un vieux biclou qu'on a retapé, qu'on a acheté dans un atelier de réparation en étant adhérent à 5 € l'année, et on l'a acheté 80 € ou 60 € ou qu'on retape soi-même. Et on peut aussi avoir un vélo assistance électrique à 2 700 €. On peut faire du camping et dépenser pratiquement pas d'argent en famille et faire un séjour comme ça tout à fait dépaysant, pas très loin de chez soi, et on peut aussi s'arrêter dans des hôtels et s'arrêter dans des... Donc on a là une quelque chose d'assez universel en fait. Le plaisir sera le même, sera divers mais sera similaire et avec des budgets très très différents. Et je trouve que c'est une des choses très intéressantes dans le vélo, c'est qu'on a quelque chose qui est très universel. D'ailleurs, c'est aussi d'ailleurs pour cela sans doute que cet objet suscite parfois des crispations.
Ah oui.
C'est que tout le monde le connaît, tout le monde en a eu un moment l'usage, et donc à un moment, il y a des gens qui se disent « mais pour moi, c'est pas possible », et ils en déduisent à tort que c'est possible pour personne, alors que s'ils essayaient, je suis sûr qu'ils seraient très heureux.
Olivier Razemont, à propos de crispation, Brigitte nous écrit « Strasbourg, capitale du vélo, certes, pourtant il ne fait pas bon être piéton à Strasbourg. De très nombreux cyclistes ne respectent rien ni personne. Dans les zones piétonnes, ils slaloment à toute allure entre les piétons terrorisés. » Voilà, qu'est-ce qu'on peut répondre à Brice? C'est vrai, moi j'ai encore vu hier boulevard Barbès des cyclistes très très énervés, très stressés, qui utilisaient avec force leur sonnette avec une passivité agressive qu'on peut constater aussi. C'est-à-dire que voilà, c'est
tout à fait. Vous avez raison, Ali. Heureusement que ces gens sont pas en scooter ou en voiture.
Oui, exactement.
Parce que s'ils étaient en scooter ou en voiture, non seulement ils vous klaxonneraient, mais en plus ils vous écraseraient. Donc, mais c'est vrai que ce type de comportement, on les retrouve dans tous les moyens de transport. C'est très juste. À Strasbourg, c'est un des problèmes en particulier, notamment parce que la ville, pendant un temps, avait construit des pistes sur les trottoirs. Donc, ça a donné l'idée que on pouvait circuler sur le trottoir, ce qui est une très mauvaise idée. Il y a des rues, ils sont en train quand même d'apaiser ça. Et notamment des rues, je pense à la rue d'Austerlitz, que je connais à Strasbourg, qui est une rue piétonne et où on dit on ne circule pas à vélo dans la journée dans cette rue. Non, c'est un des enjeux, mais une des raisons en fait très souvent, c'est que je le vois aussi hein, des gens qui sont à vélo et qui circulent sur le trottoir, mais parce qu'ils se sentent pas en sécurité sur la voie sur la chaussée, qui se sentent menacés et donc ils circulent sur le trottoir, et certains ont tendance, et c'est très juste et ça m'agace aussi à klaxonner les piétons, ce qui est moi ça me choque à chaque fois. Il faut apprendre en fait, quand on est à vélo, on finit par comprendre que le piéton est le roi de la vie et qu'il faut systématiquement faire attention aux piétons, mais ça demande un petit peu. En fait, en matière de transport, ça demande toujours un petit peu d'observation, de bienveillance et en fait un peu de réflexion. Et c'est pas toujours le cas. Et c'est vrai que quel que soit le moyen de transport, surtout s'il est puissant, bah, on a tendance à foncer. Et je peux vous assurer que moi, c'est pas tellement des vélos dont j'ai peur quand je suis à pied. C'est plutôt des scooters qui sont sur les trottoirs.
Camille Thomé.
Oui, pour les néophytes, parce qu'il y en a encore beaucoup sur une pratique régulière. Si la plupart des Français disposent d'un vélo et en ont un, qui peut se faire réparer d'ailleurs pas très cher en ce moment chez tous les vélocistes qui ont encore de la place dans leur carnet de commandes, il y a quand même beaucoup d'itinéraires et pas que dans les villes, en sortie de ville et qui connectent les territoires entre eux, et ce dans un rayon de 100 km autour de chez soi, bien souvent. Ce sont les itinéraires de véloroute et de voies vertes qui sont disposés partout en France. On a quand même un réseau qui est composé de 17 000 km de schéma national des véloroutes qui est ouvert aujourd'hui. Et ces itinéraires-là sont pour un gros tiers en site propre, c'est-à-dire en piste cyclable ou en voie verte, donc séparés du trafic démotorisé. Et il y a tout un terrain de jeu quand même qui est à disposition des Français pour une excursion, pour un séjour de courte durée ou des vacances plus longues, pourquoi pas en itinérance même, qui est un terrain de jeu à proximité et à portée de main de pas mal de Français. Aujourd'hui, on va connaître un été où 9 millions de Français qui étaient censés partir en vacances à l'étranger, parce que c'est à peu près l'exode français que l'on connaît l'été, ils vont se reporter vraisemblablement sur du voyage domestique. Il y a tout ce terrain de jeu-là qui est ouvert, y compris dans des territoires ruraux, ciblés sur de l'outdoor, avec beaucoup, une qualification de l'offre, beaucoup d'établissements tagués accueil vélo, à peu près 4000 en France. Je pense que tous ces établissements-là n'ont qu'une hâte, c'est de voir la clientèle revenir. Donc on verra les annonces de 17h tout à l'heure, mais ce sera tout à fait important de pouvoir partir en vacances au grand air avec une distanciation physique qui soit acceptable. À vélo, ça paraît tout à fait adapté pour cet été en tout cas.
Frédéric Errand, un mot de conclusion rapide.
Oui, une fois de plus, on vient de balayer des usages très variés du vélo. On pourrait parler d'énormément de pratiques qu'on n'a pas évoquées, comme par exemple tout le développement autour du cargo cycle, qui est quelque chose d'incroyable. Vous avez plein de familles aujourd'hui qui achètent des vélos un peu sophistiqués. C'est vrai que c'est pas donné, mais c'est beaucoup moins cher qu'une voiture quand même, qui permettent à la fois de faire les courses, de transporter les enfants, le chien, la grand-mère, que sais-je. Et vous avez aussi le gravel. Le gravel, c'est un usage improbable du vélo. C'est une espèce de vélo très robuste qui permet de... à mi-chemin entre le vélo de randonnée et le vélo tout-terrain, vous voyez, qui permet d'aller sur les chemins, sur les routes assez efficacement, qui est pas très lourd.
Merci Olivier Rasbon. Frédéric Errand, on est obligé d'interrompre là cette thématique, mais je vous propose de revenir pendant le mois de juin pour évoquer à nouveau le vélo dans cette émission. Merci également à Camille Thomé d'être intervenue dans cette émission. Dans un instant, tout de suite, le temps de réfléchir avec Olivier Pouriol. Bonjour Olivier Pouriol.
Bonjour Ali.
Vous réfléchissez à notre époque.
Alors,
ce matin.
Pour commencer, il faut que je vous avoue quelque chose.
Oui, attendez, je vous présente quand même Olivier.
Vous m'entendez ?
Oui, Olivier Pouriol, on vous entend.
Pardon,
on vous entend, mais je vous présente tout de même. Vous êtes écrivain, chercheur associé à la chaire de philosophie à l'hôpital, qui est la chaire de Cynthia Fleury. Vous êtes l'auteur du site cinéphilo.fr. Et vous avez envie ce matin de revenir sur les propos controversés de la chanteuse et comédienne Camélia Jordana.
Oui, et pour commencer, pardon Ali de vous avoir interrompu, il faut que je vous avoue quelque chose. Ali, j'ai des amis policiers. Alors, j'en suis ni honteux ni fier, hein, ce sont des gens comme les autres. Mais il y a quelque chose qui les distingue quand même, c'est qu'ils vivent dans la peur. Je ne dis pas qu'ils sont peureux, c'est plutôt l'inverse. Je les trouve très courageux, mais presque trop. Et l'un d'eux m'a d'ailleurs expliqué que c'était son problème. Dès qu'il voit une bagarre, il doit y aller. Pas par sens du devoir, mais parce qu'il a peur. Et quand on a peur, ben, on y va. On prend des coups, on en donne, ça fait du bien. Ah oui, ça soulage de la trouille. Et c'est une vérité qu'on n'entend pas souvent. Les policiers qui frappent sont ceux qui ont peur. Et plus ils ont peur, plus ils frappent fort. C'est aussi bête que ça. Une amie policière me disait, elle, qu'elle avait moins peur des voyous que des avocats. Donc c'est autre chose, hein. Les veilles d'audience au tribunal, elle n'arrive pas à dormir. Son cauchemar porte une robe, il est mal rasé, il s'appelle Éric Dupond-Moretti. Et elle a peur de lui comme on a peur du proviseur, alors qu'elle n'a aucun problème pour maîtriser un braqueur armé. J'ai aussi des amis militaires, Ali. Il y en a un qui donne des cours à l'école de guerre. Il me dit que plus un soldat est jeune, moins il est capable d'attendre. Et le philosophe Alain, qui a fait la guerre de 14, dit à peu près la même chose. Il dit que pour un être humain, attendre, c'est forcément finir par avoir peur. C'est à cause de notre imagination. Ben, comme chez le dentiste, le pire, c'est la salle d'attente. Ben, tiens, d'après vous, Ali, dans les grandes batailles de l'Antiquité, où plaçait-on les meilleurs soldats, les plus solides, les plus aguerris? Est-ce qu'on les mettait en première ligne?
Mais non, dernière ligne, j'imagine.
Bon, je vous aide. Pas du tout. Ah voilà, bon, pas du tout. Justement, on les mettait derrière, car il est beaucoup plus difficile d'attendre son tour que de se battre. Et si vous donnez une arme et le droit de s'en servir à n'importe qui, hein, même au plus inoffensif, je vous garantis qu'avec un peu de pression, il s'en servira le plus vite possible pour se donner du courage. C'est la nature humaine. Voilà. Bon, moi, j'aime beaucoup la philosophe Simone Veil, qui a fait elle aussi une guerre, la guerre d'Espagne. Elle écrit un texte que j'adore, qui s'appelle l'Iliade ou le poème de la force. Ça parle de la guerre de Troie. Je vous en lis un petit bout. La force enivre quiconque la possède ou croit la posséder. Personne ne la possède véritablement. La honte de la peur non plus n'est pas épargnée à un seul des combattants. Les héros tremblent comme les autres. C'est pourquoi ces hommes armés agissent durement et follement. Donc il y a quelques jours, comme vous le disiez, la chanteuse Camélia Jordana a osé dire sa peur de la police. Le ministre de l'Intérieur s'en est ému parce que bah, lui aussi a peur de la police, mais de ses syndicats. Mais ceux qui sont sur le terrain le savent. On a toujours raison d'avoir peur d'un homme armé parce que frapper est plus facile que s'en empêcher. Et si on parle de courage, Ali, il en faut bien plus pour avouer sa peur que pour la condamner.
Merci beaucoup, Olivier Pourriol. On peut lire avec profit votre dernier livre, Facile, publié chez Michel Lafon. Dans un instant, la chronique de Tanguy Pastureau.
Tant pis si c'est faux, moi je veux jouer. Sauvage, j'ai le texte inventé, abîmer mon image, j'ai l'écran crevé. Moi je veux vivre comme au cinéma, en plan américain avec la musique qui marque mes pas et la nuit qui m'appartient. Moi je veux vivre comme au cinéma, d'un scénario. Tant pis si j'ai peur, je veux essayer. Même en amateur, en acteur raté. Et sans maquillage, j'ai en plan serré. Abîmer mon image, j'ai l'écran crevé. Moi je veux vivre comme au cinéma, en plan américain avec la musique qui marque mes. Cinéma, d'un scénario de rien, et si c'est mauvais, mauvais, je couperai la fin. Si c'est mauvais, mauvais, je couperai la fin. Si c'est mauvais, mauvais, je couperai la fin. Si c'est mauvais, mauvais, je couperai la fin.
Comme au cinéma.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébéi.
9h55, l'heure de retrouver Tanguy Pastureau. Bonjour Tanguy.
Bonjour Ali.
Alors notre démocratie se trouve à un tournant de notre existence.
Oui Ali, c'est la fin. Je propose qu'on mette la France en vente sur le bon coin. Il y aura bien un émir ou Jeff Bezos pour nous la prendre. Le coup de grâce a été porté hier par Jean-Marie Bigard, l'humoriste de la coucougnette vaillante et de la blague de la tarte au poil. Fini Le Pen, Mélenchon, l'opposition à Macron, désormais c'est Bigard qui est entré en campagne sur BFM TV. Quand dans 2000 ans les historiens étudieront notre période, ils parleront de l'ère de l'homo debilus. Un seul problème aujourd'hui, dès qu'un type a 200 commentaires favorables sur Facebook, il a la tête qui gonfle. Et comme la présidentielle, ça fait 20 ans que c'est Disneyland, tous les oseaux se sentent d'y aller. Alors là, Bigard dit représenter le peuple. Hein, il sait que le peuple Macron maîtrise moins que Bruno Retailleau la technotrans. Hein, quand le président se retrouve face à des gens, il les écoute 9 secondes, dit « je ne peux pas vous laisser dire ça », parle pendant 1h20 et repart en se disant « on a eu un bel échange hein, ». Il s'écoute plus que le mec qui, en moins 12 000 en criant « poète poète » dans les montagnes, a découvert le principe de l'écho. C'est même pas une histoire de classe sociale, niveau de vie, Macron-Bigard, c'est pareil. C'est une connexion qu'on a ou qu'on n'a pas avec ce qu'on appelle les gens. Moi, je ne l'ai pas. Je suis incapable de régler les soucis de qui que ce soit. Même quand un psy m'a dit de travailler sur les miens, j'ai répondu « désolé, à 70 euros l'heure, je te laisse bosser parce que pour ce prix à la pédicure, il me faisait 19 pieds ». Bon bah, je me présente pas à la présidentielle. Alors je sais pas si vous avez vu l'interview de Jean-Marie Bigard, Ali, j'espère, parce que c'est bien de suivre l'actu politique. Hein, en 2022, il sera peut-être président, assis sur un coussin péteur, tous les 14 juillet dans les jardins, il y aura le grand chabit de l'Élysée, avec Tex et des actrices qui sniffent de la chloroquine. Bon, et eh ben, si vous l'avez vu, alors à la décharge de Bigard, c'est moins lui qui a annoncé sa candidature que le présentateur de BFM. Hein. Il le pousse, est-ce que vous allez y aller alors? C'est oui ou oui? Enfin, on sent que le type est à deux doigts de lui dire, allez, Jeannot, si t'y vas pas, t'as rien dans le calcif. Donc Bigard, vous lui dites ça, il vous colle le plus gros pain de chez Banette. Pas la baguette bio des bobos sensibles, non. La miche dure, celle d'il y a 3 jours qui a séché. Et il réagit en disant chiche. Hier, c'est ce qu'il a dit. Hein, il a dit, c'est en 2022, je pourrais être intéressé si ça pouvait aider le peuple à avoir une voix sincère. Mais en un quart d'heure sur les réseaux, c'est devenu j'y vais. On a aboli le conditionnel. On va faire clamser Bernard Pivot. Bref, on sent que Bigard dans l'histoire, c'est un peu l'idiot du village qui se fait berner par les technocrates. Mitterrand avait créé Le Pen, Macron lance Bigard, tous les 30 ans on sort un Jean-Marie qui sert juste à anéantir l'opposition et à passer le premier tour tranquille. Hein, y a des pays qui font des t-shirts, d'autres des fusées, nous on fait des Jean-Marie. Donc Bigard qui plastronne en disant le président m'a appelé, je suis au top, ne réalise même pas qu'il est manipulé, il ne voit pas les fils, tel Mickey Rourke quand il se regarde dans la glace le matin avant d'avoir mis ses lentilles. C'est un mec candide que des médias, des politiques vont faire monter jusqu'à ce qu'il explose et qui demain célébreront leur victoire assis sur sa dépouille. C'est amoral. Alors hier, Jean-Marie Bigard n'a pas dit qu'il se présentait à la présidentielle, mais nous tous l'avons entendu. Ça en dit plus sur nous que sur lui. Et s'il y va et qu'il est élu en 2022, les commandes de masques seront faites par le Premier ministre, Patrick Sébastien. 1 million de masques de carnaval. Enfin, il y aura un peu de joie dans ce pays.
Tanguy Pastureau, vous n'avez pas envie d'entrer dans un futur gouvernement dirigé par Jean-Marie Bigard?
Je le sens assez moyennement, mais
à quel ministère, tiens?
Allez, s'il y a un chèque à la clé, je le fais.
Merci beaucoup, Tanguy Pastureau. On se retrouve évidemment. Bisous, à la semaine prochaine.
Soyons fous.
Dans un instant, nous recevons l'écrivain Pascal Bruckner qui fustige la société du maître et demi. Et puis, nous célébrerons le plaisir de lire Simenon. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7. Et puis j'ai encore un petit moment pour vous donner le programme. À 14h, vous allez retrouver Boomerang d'Augustin Trapenard qui recevra Fabrice Lucchini. Et à 15h, affaire sensible, Fabrice Drouel s'intéressera à l'espionne qui aimait Castro.